Flash, l'émission pop culture, jeux vidéo, manga, films, séries, animations, jeux de rôle et internet. Présenté par Mel J.A. un mercredi sur deux sur Radio G.
Sur Radio G, on est le mercredi 29 janvier, c'est le 8e épisode de Pop Flash, et je vous dis du coup, bon début de soirée avec moi, je suis JR, et comme d'habitude, je serai là, accompagné de Mel, pour vous présenter cette émission. Bah du coup, coucou Mel, comment tu vas ?
Coucou, et bah ça va très bien, comme toujours, merci, et toi, comment ça va ?
Bah écoute, ça va très bien, ça a été un sacré début d'année, hein, d'un point de vue, on va dire, du jeu vidéo et des séries. Mais justement, je pense qu'aujourd'hui, on va en parler. Et justement, de quoi on va parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, il va y avoir une assez grosse partie sur Game Pop. On va dire une très très grosse rubrique, il y a une très grosse rubrique qui est prévue par Mel, ça je le sais. Puis après, il y aura une plus petite rubrique sur moi en jeu, qui est pour l'instant mon jeu du moment et peut-être mon jeu de l'année. On enchaînera tout de suite avec une petite rubrique Qu'est-ce qu'on lit, dans lequel je vous parlerai du premier roman de l'émission. Un roman qui m'a particulièrement marqué et que j'aime beaucoup. Et ensuite, on parlera d'un manga qui m'a aussi beaucoup, beaucoup marqué, notamment dans ma prime jeunesse. C'était il y a longtemps, mais ça a quand même existé. On enchaînera ensuite avec Pop & Clap, où on parlera de deux séries qui nous ont marqué sans bien, sans mal, vous le verrez. Mais en tout cas, ça nous a pas laissé indifférent. Pour finir, on aura tout simplement une toute petite chronique qui sera du coup sur du jeu de rôle, donc lancer les dés. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler dans JDR français. Voilà, bah, je pense qu'une fois que tout cela a été mis en place, on peut commencer. Bah, du coup, on commence tout de suite avec Game Pop. Et du coup, bah vas-y Mel, on lance le générique et puis tu commences. Actu et test jeux vidéo, c'est Game Pop avec Mel.
On ne parle plus que de ça, ou presque, dans cette émission, car c'est ce qui enflamme une partie de la communauté du jeu vidéo, la Nintendo Switch 2. Rappelez-vous, nous avions eu tout un millimètre entre informations officielles, leaks et rumeurs outrageuses. Et bien maintenant, on va pouvoir partir sur des informations purement officielles, ou presque, vous allez voir. Le 16 janvier 2025, Nintendo balance une nouvelle vidéo sortie de nulle part. Et bam, surprise, reveal de la Nintendo Switch 2. Mais est-ce vraiment une vidéo sortie de nulle part ? Eh bien, vous allez voir que pas vraiment. En effet, quelques jours avant, se tenait une convention sur les dernières technologies dans le monde du gaming. Et un stand a attiré l'attention de journalistes et de petits curieux. Le stand de GameStop, qui s'occupe énormément des accessoires de la Nintendo Switch. Et la première news, ils avaient des accessoires pour la Switch 2 dans leur catalogue de présentation. Et oui, vous ne rêvez pas, des constructeurs d'accessoires Nintendo ont leaké de façon légale certains aspects de la Switch 2 avant même que Nintendo annonce la Switch 2. Ça fait beaucoup de Switch 2. Vous savez comment ça se passe sur Internet. Tout va très vite. Twitter, puis ensuite la toile entière s'est enflammée. Ça y est, c'est concret, la Nintendo Switch est bien là. Selon même certains médias, des personnes tenant des stands à cette fameuse convention avaient un modèle non officiel, en gros, pas consorti ni utilisable avec eux. Ils ont même déjà tenu la dernière version prototype de la console entre leurs mains. Forcément, quelques jours plus tard, Nintendo sort sa vidéo de présentation officielle de la Switch 2. Une communication pas forcément au top du coup. Voici tout ce qu'on apprend dans ce trailer. Écran plus grand, manette magnétique, couleur noire, mat, boutons supplémentaires, Joy-Con amélioré, design légèrement modifié avec des couleurs inversées et plus discrètes, et rétro-compatibilité et jeux exclusifs. On débrief. Concernant l'écran, on s'y attendait, rien de nouveau, si ce n'est que apparemment, ça a choqué beaucoup d'internautes. L'écran est LCD et non OLED, ce qui est étrange de la part de Nintendo qui avait déjà sorti la Nintendo Switch OLED, une sorte de version 1.5 de la Switch. Les manettes magnétiques. Les leaks et les rumeurs avaient raison à ce sujet, plus de manettes coulissantes. Mais maintenant, vous aurez juste à clipser les manettes. Les manettes magnétiques. Les leaks et les rumeurs avaient raison à ce sujet. Plus de manettes coulissantes, mais maintenant vous aurez juste à clipser les manettes et elles seront maintenues magnétiquement. D'ailleurs, ça a permis de changer le son des fameux Nintendo Direct ou jeux Nintendo, par exemple. Les Joy-Con. Ah, je me rappelle cette belle époque où j'ai eu ma première Switch en 2020 et où les Joy-Con officiels de Nintendo bug, mes personnages avançaient tout seuls ou se bloquaient. C'était super quand je jouais à Mario Kart. Non, je déconne, c'était l'horreur. Les Joy-Con Drift étaient un vrai fléau et pourtant quelque chose de très répandu sur les Switch. Eh bien, il semblerait que Nintendo ne recommence pas la même erreur car les Joy-Con auront une meilleure ergonomie et une technologie différente. Concernant les boutons supplémentaires, on ne sait pas encore à quoi ils servent exactement, mais il y a un bouton à côté de celui de l'accueil. Beaucoup spéculent sur le fait que ce sera un bouton permettant d'accéder aux paramètres de la Switch directement depuis son jeu. J'avoue avoir du mal à comprendre l'utilité et je pense que ce ne sera pas pour ça. D'autres ont une théorie plus intéressante selon moi, l'accès à Internet, comme une mini tablette par exemple. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y aurait des boutons ressemblant à une souris d'ordinateur sur les manettes. Je me dis peut-être que Nintendo va lancer son propre réseau social et qu'il y aura un accès direct, peut-être pour mettre nos photos et nos vidéos de nos jeux dessus. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Ensuite, nous avons appris deux choses. La rétrocompatibilité, les jeux de la Switch 1, qu'ils soient en cartouche ou en dématérialisé, seront disponibles. Les exclusivités. Il y aura des jeux exclusifs à la Switch 2. Au début, ça m'a saoulé, je vais être honnête. Oui, si je veux jouer à ce jeu, je vais devoir acheter la Switch 2, mais ça risque de coûter cher. Mais en fait, il est tout à fait normal pour une nouvelle console d'avoir des exclusivités comme Mario Kart 9, qui a été teasé par exemple. Mais pas d'inquiétude non plus pour les rumeurs qui circulaient sur une fameuse fermeture du Nintendo Online sur la Switch 1. C'est totalement faux. Nintendo a démenti cette rumeur. Et enfin, le design noir avec des touches de bleu et de rouge clair, presque orangé, sous le dessous des Joy-Con et sur la partie magnétique des manettes. Je trouve ce design très joli, beaucoup plus discret que la première Switch bleue et rouge. Les matériaux et composants ont l'air de très bonne qualité également. La console a une forme légèrement plus arrondie. En tout cas, j'aime beaucoup ce design qui, dans un sens, fait moins enfantin. Le dossier Switch 2 n'est pas fini, mais vu que c'est très long, j'aimerais faire une petite interlude. JR, quelle est ton opinion, toi, pour l'instant, sur ce que tu as vu ou entendu de la nouvelle Switch ?
Bah écoute, je suis assez mitigé, je m'explique. Autant je suis content qu'il y ait une nouvelle console Nintendo qui sorte, autant j'ai vraiment l'impression qu'ils nous sortent une Switch 1.5, comme tu dis. Le fait que ce soit un écran LCD, en fait on sait très bien pourquoi il y a un écran LCD, c'est parce qu'ils vont sortir après la Switch 2 OLED qui coûtera un rein. Du coup, je suis content parce que ça veut dire qu'on va enfin avoir une meilleure console qui sera peut-être pas l'équivalent d'une PS3, même pas sous stéroïde, j'allais dire sous stéroïde, mais c'est même pas vrai. C'est une PS3 asthmatique.
Donc, ouais, non, alors apparemment.
Non, je parle de la Switch aujourd'hui, c'est pour ça.
Ah, la nouvelle Switch.
Je parle pas de la nouvelle Switch. Et j'espère du coup qu'on aura des bons composants parce que surtout, ce qui me fait un peu peur, ça sera peut-être aussi le prix. Vous connaissez mon avis sur les consoles, je suis en PC Master Race, j'ai une Switch parce qu'il y a des exclusivités, heureusement qu'il y a des exclusivités sur Twitch. Switch, 1, 2, 3, je vais y arriver, parce que sinon, ben, on l'achèterait pas, il n'y aurait pas d'intérêt à l'avoir en fait. Exactement. T'achètes une Xbox ou la dernière Xbox, je ne sais plus comment elle s'appelle, Series, parce que c'est beau, t'achètes. Une PlayStation parce que c'est beau et parce que t'as de l'argent à jeter par les fenêtres, je sais pas. Mais t'achètes une Switch parce que t'as Mario, t'as Zelda, t'as tout ça. Sauf que il y a aussi pas mal de rumeurs qui disent que beaucoup des exclusivités qui ont fait leur succès sont sur le point de s'arrêter. Je parle notamment de Smash Bros où il y a des grosses rumeurs que Smash Bros Ultimate, qui est sorti du coup sur l'ancienne Switch, était justement l'ultime. Donc personnellement, j'attends de voir un peu les retours. Je ne l'achèterai pas à la sortie personnellement et j'attendrai peut-être d'avoir, je sais pas. Au hasard, une version collector Mario Kart ou Zelda.
D'accord. Alors moi, j'avoue qu'au début, j'étais pas trop hypée par la Switch 2. J'étais en mode, ouais, bof et tout. Euh, puis, je sais pas pourquoi, dans ma tête, je me suis mise à râler et j'étais pas la seule sur le fait qu'il y allait avoir des jeux exclusifs à la Nintendo Switch 2. Mais en fait, c'est tout à fait logique. PlayStation, ils font pareil, etc. C'est normal, en fait. Mais j'ai l'impression qu'en fait, vu qu'ils jouent Nintendo joue beaucoup sur le fait de, on fait des évolutions et pas des nouvelles consoles.
Ah oui, clairement. La Switch 2, j'avais vraiment l'impression qu'ils nous présentaient juste, oh regardez la nouvelle Switch, on a un peu changé le design, on a enfin fait en sorte qu'il n'y ait pas de Joy-Con Rift. Ça date de la Wii, les Joy-Con Rift. Oui. Ça date de la Wii, c'est une singerie qu'il n'est pas encore réglé. Et du coup, non, genre en fait, je crois que c'est ça que j'ai aussi mon plus gros problème avec Nintendo, c'est que j'ai l'impression qu'on nous prend parfois, enfin souvent, pour des putains de vaches à lait.
Oui, bah après, Nintendo, comment expliquer ? Nintendo a bien compris que leur communauté, les joueurs Switch principalement et les joueurs de Nintendo sont des consommateurs.
Oui, c'est des Yankees.
C'est des Yankees, effectivement, c'est tout à fait ça, et ils en ont conscience, et en fait, c'est pour ça, ils ont toujours, en fait, Nintendo prend toujours une recette, si elle marche, il la pompe jusqu'au bout. Et puis après ça, et ben ils passent à autre chose. Ils ont fait ça pour la Game Boy, ils ont fait ça pour la Nintendo DS, ils ont fait ça pour la Wii, ils font ça pour la Switch. Moi, j'ai rien contre la nouvelle Switch. A l'air quand même, on va pas se mentir, elle a l'air plutôt bien. J'attends de voir aussi également. J'attends de voir le prix. On va en parler un petit peu après justement du prix. Je pense qu'elle risque de coûter peut-être un peu cher au début. J'avoue que, bon, on a acheté il y a un an et demi la Switch OLED Collector Zelda.
Ouais, ça
donc,
casse
ça fait un peu...
Pour rester poli, ça casse les roustons, quoi, un peu.
Genre, casse les glaouis, comme
ça,
on dit.
Ouais, ça casse les glaouis un peu, parce que, comment dire, on a, ça fait un an et demi, ils le savaient déjà, c'était déjà dans le réseau. Et puis voilà, en effet, ils ont une méthode qu'ils poncent jusqu'à l'os, et une de leurs méthodes, c'est aussi de faire des procès à tous ceux qui osent dire le nom Pokémon. S'il vous plaît, Nintendo, ne nous attaquez pas en justice. du coup, je te laisse continuer ta chronique.
Oui. Alors, du coup, les dernières informations concernant la Switch 2, et après, promis, je rends l'antenne à JR, concernant surtout des dates. La console sortira en 2025, mais la date exacte n'a pas encore été communiquée, mais il y a des rumeurs qui disent qu'elle sortira pour juin, juillet, peut-être même août, mais entre juillet et août, ça tombe bien, août, c'est mon anniversaire. Si vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas, Caro?
Oui,
n'est-ce pas, JR?
Oui, je vois très bien, mais ça veut rien dire.
Bref, donc du coup, voilà. Avril sera chargé en news Switch 2. Le 2 avril, un Nintendo Direct sera consacré à la Switch. Du 4 au 6 avril, à Paris et dans d'autres villes en Europe, vous aurez la chance de tester la Switch 2 en avant-première. Pour cela, il faudra vous inscrire avec votre compte Nintendo Switch. Vous êtes tiré au sort et vous pourrez la tester en exclusivité. Attention, les inscriptions se font uniquement entre le 17 et le 26 janvier, mais il y a des rumeurs qui disent comme quoi ça pourrait être reporté à plus tard. Donc, on vous en parle, mais attention, c'est peut-être déjà dépassé. Il y a des rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs, en fait, sur Internet concernant Nintendo. Ils sont toujours victimes de rumeurs. Et concernant le prix, pas encore d'informations officielles, mais certains spéculent. Vas-y, JR, essaye de deviner sur combien ils spéculent les gens.
400, 500 balles? Pas plus. Si c'est plus que ça, franchement, c'est la baisse.
Certains spéculent sur 400 euros, ce que je trouverais vraiment très cher quand même si c'est le cas, même si je me souviens plus de combien coûtait la Switch à sa sortie. Je trouve que 400 euros,
c'est trop cher.
C'est pas trop cher, mais c'est un peu cher, quoi.
En fait, je vais t'expliquer pourquoi je trouve ça trop cher, c'est que pour 100 euros en plus, t'as un bon PC gaming.
Ouais.
Donc, pourquoi tu prendrais une Switch alors que tu peux l'émuler? Non, émulez pas les enfants, c'est pas bien, c'est pas légal, c'est pas bien de faire ça. Mais
Ouais, je sais pas trop, mais on verra bien. En tout cas, si elle sort en août, c'est mon anniversaire, donc n'hésitez pas. Hein. Les petits cadeaux, ça fait plaisir, surtout une Switch. Le dossier Switch 2 est fini, mais pas la chronique Game Pop, puisque JR a découvert un jeu dont il aimerait vous parler. Je lui laisse donc la parole et on se dit à plus tard.
Je tiens juste à rappeler que du coup, vous êtes sur Radio G 100.5 FM. C'est une radio qui est aussi disponible en DAB+, et vous écoutez Pop Flash. Et pour la suite de Game Pop, je vais vous parler de mon jeu du moment. C'est mon petit jeu un peu... je vais pas dire que c'est mon jeu comme fille, parce que c'est pas trop un jeu comme fille, mais c'est un jeu qui est sorti maintenant il y a 3 ans, c'est Sifu. Alors aujourd'hui, on va voir un pop flash qui sera très français, car Sifu est un jeu français c'est le deuxième jeu d'un studio indépendant qui s'appelle Slow Clap, qui est sorti en 2022, comme je l'ai dit, sur toutes les consoles. Seul en février d'abord pour tout ce qui était Xbox, PC et PlayStation, et enfin en novembre pour tout ce qui est Wii. Personnellement, j'y joue sur PC et j'ai réussi à le découvrir, notamment via une série dont on parlera plus tard, qui est Secret Level, et aussi notamment grâce au Game Pass. Mais du coup, est-ce que j'aime Sifu? Oui, j'adore Sifu. Et qu'est-ce que c'est Sifu? Sifu, c'est un jeu beat'em up / roguelike qui est inspiré des films de kung-fu, dans lequel on incarne soit un jeune garçon, soit une jeune fille qui au début a 20 ans, c'est important de dire au début à 20 ans, qui part dans une quête de vengeance contre une organisation qui a tué toute sa famille. C'est un jeu qui est extrêmement nerveux. Dans le sens où c'est un jeu de kung-fu, c'est un jeu de bagarre avec beaucoup d'ennemis, et le but c'est du coup d'atteindre à chaque fois un boss, évidemment de tuer le boss, et pour ça on va avoir accès à ses points majoritairement et à certaines armes. Pourquoi est-ce que je trouve ça bien? Parce que c'est un jeu qui a déjà une très bonne rejouabilité, je développerai ça plus tard, mais surtout c'est un jeu qui a une courbe de progression qui est énorme et qui est dans le sens où on peut et qui est très vite visible. On peut refaire, alors j'ai personnellement, et je sais que beaucoup de personnes le font, refaire notamment le premier niveau encore et encore et encore et encore et encore, jusqu'à en fait à être à un point, alors ça il faut aimer les speedruns, où on arrive, on sait exactement où prendre une bouteille, trouver le premier ennemi, lui éclater la bouteille sur la tête, exécution, aller sur le deuxième ennemi, boum, exécution, et après on récupère une batte de baseball, boum, exécution. Et en fait, au début, c'est dur. Parce que on maîtrise pas encore les esquives parfaites, on maîtrise pas encore les parades, on maîtrise pas encore tous nos combos. Et au fur et à mesure qu'on commence et qu'on recommence et qu'on recommence, on voit en fait notre évolution et on voit en fait qu'au fur et à mesure les ennemis ne nous touchent plus. Jusqu'à arriver au boss où évidemment le saint graal c'est de faire un no hit. J'y suis toujours pas arrivé. J'ai une amie qui est arrivée et j'ai un ami aussi qui est arrivé, mais eux ils sont à un autre niveau, ils jouent depuis beaucoup plus longtemps que moi, donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, peut-être, mais en tout cas ils sont meilleurs que moi. Autre chose que je trouve très bien dans le jeu, c'est que il y a pas de vie à proprement parler. Je m'explique. Comme je le disais au début du jeu, on joue en une jeune fille ou un jeune garçon qui a 20 ans. Et ce qui se passe, c'est que à chaque fois que l'on meurt, parce qu'il se peut qu'on meure, on ne perd pas une vie comme dans Mario avec un petit cœur, c'est que en fait notre héros a une espèce de petit artefact qui lui permet en fait de revenir à la vie contre des années de vie. Au début, quand on meurt, on prend 1 an, puis aussi on meurt une deuxième fois, on prend 2 ans, et en fonction qu'on peut regagner des années de vie en fonction de si oui ou non on bat des mobs que moi j'appelle des mobs shiny, mais qui sont en fait juste des mini boss, et ça nous permet du coup en fait de encore une fois de prévoir nos trucs et de nous dire ok, je veux finir ce level à 21 ans, c'est-à-dire que je ne peux mourir qu'une seule fois. Évidemment, à un moment on arrête de vieillir, à 70 ans on meurt pour de bon, et à chaque fois qu'on passe en palier de 10 ans on a moins de vie, mais par contre on tape plus fort. Donc il y a des gens qui ont des vraies strates de mourir en boucle jusqu'à être en fait avoir 70 piges, être tapé comme une brute, mais par contre ne jamais se faire toucher. Donc en fait c'est cool, on peut avoir chacun notre propre expérience de jeu, et ça c'est quelque chose qui, je pense, manque un peu trop, je trouve, dans les jeux qui sont sortis dernièrement. Ensuite, évidemment, il y a tout ce qui va être design des niveaux qui sont juste excellents, vraiment, genre c'est beau, c'est un style qui est particulier, mais dès qu'on s'y fait, c'est putain de beau. Il y a tout le système aussi des arbres de compétences qui sont très bien, et c'est adapté aussi au gameplay du joueur. Plus on va prendre une compétence, plus en fait à partir d'un certain temps. Si par exemple, alors si je me trompe pas, c'est 5 fois. Quand on prend 5 fois une compétence dans une run, dans 5 runs différentes, je veux dire, bah en fait quand tu relanceras ta 6ème run, ton personnage le connaîtra d'office. Donc en fait, on a une évolution de notre gameplay et de notre skill, mais notre personnage évolue avec nous. Et on peut voir en fait ce qu'on utilise le plus, et du coup, peut-être qu'on peut voir aussi nos points faibles, nos points forts, voir ce qu'on pourrait améliorer ou voir ce que pourrons peut-être essayer de mettre un peu trop de côté parce que justement, on devient trop prévisible. Sinon, dernière chose que je pourrais dire, je pense que c'est vraiment la bande son, qui est une bande son qui a été faite par O'Willy, que je ne connaissais pas. Et c'est une bande son qui est plus, on va dire, je vais pas dire en bruit de fond, mais c'est une musique de fond qui va toujours avec les niveaux et qui s'adapte en fait au moment où on est. Et du coup, en fait, il n'y a pas de point noir. Toutes les bandes son sont parfaitement adaptées à où on va, que ce soit dans une boîte de nuit, qu'on soit dans un repère de gang qui est du coup dans des favelas, qu'on soit dans un musée où on doit aller taper des gens parce que c'est des méchants et que moi je tape des gens pour vivre. Ça tape toujours juste. Dernière chose que je trouve très bien avec les niveaux, c'est que chaque niveau, forcément, il y a un boss et que ce boss a ses propres particularités. J'essaie de spoil le moins possible le jeu. Et en gros, les niveaux chaque niveau raconte une histoire et nous permettent en fait de voir en fait un peu le caractère du boss qu'on va avoir, ses habitudes, comment est-ce qu'il va peut-être se battre. Et tout ça, c'est encore une fois, c'est agréable et que c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, dernièrement, manque un peu dans les jeux qui sortent. Genre, je sais pas, j'ai joué à certains beat'em up, notamment, je pense que Space Marine peut rentrer dans les beats Space Marine 2. C'est un très bon jeu que j'ai adoré. Mais on n'a pas cette rejouabilité, j'ai l'impression, et surtout cette manière de, en tout cas pas dans la campagne principale, ou cette manière de jouer en fait notre campagne à notre manière. Et je trouve que ça manque un peu. Bref, en conclusion, c'est mon jeu coup de cœur pour l'instant. J'y joue tout le temps en stream et j'y joue tout le temps hors stream. C'est un jeu agréable, c'est un jeu qui défoule parce que forcément, c'est un jeu qui défoule énormément parce que, ah oui, d'ailleurs, j'allais oublier, autre bon point de ce jeu, tous nos coups de poing, on sent l'impact que ça a sur l'ennemi. Quand on fait une parade parfaite et qu'on lui met un crochet du gauche en plein dans la mâchoire, l'ennemi va reculer, tu vas voir que ça va faire mal. Les exécutions sont violentes, vraiment, genre ça fait mal quand tu fais ça. Mais par contre, c'est incroyablement satisfaisant et ça fait penser un peu à Doom pour justement citer ma pote qui joue avec moi. Bref, dans l'ensemble, probablement mon coup de cœur de l'année, 8,5 sur 10 et voilà. C'est la fin du coup de cette chronique de Game Pop qui a été particulièrement longue aujourd'hui. Mais comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Et du coup, pour l'instant, on va se stopper et on va vous laisser tout de suite avec une petite musique, une musique d'un groupe que vous avez déjà entendu. C'est le groupe Pentakill, qui est du coup un groupe de LOL, et on va vous mettre Mortal Reminder. À tout à l'heure. j'espère que la musique vous a plu. Encore une fois, Mortal Reminder de Pentakill. Il y a plein de personnes qui disent que le meilleur groupe de groupe de musique de LOL, c'est j'ai oublié le nom de K-pop, de la K-pop. Ouais, c'est KDA. Mais je suis tellement pas d'accord. Mais bref, c'est temps, oui.
Et moi, je pense que je n'aime pas trop Pentakill. Voilà,
ouais,
voilà.
Mais t'aimes pas le métal, et puis voilà, c'est pas grave. Hein. On peut pas tous avoir de bon goût. Allez, c'est pas grave.
Allez.
On enchaîne tout de suite avec Qu'est-ce qu'on lit ? On lance le générique et on y va. À tout à l'heure.
Préparez vos marque-pages, c'est l'heure de Qu'est-ce qu'on lit avec JR.
Et du coup, qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui ? Aujourd'hui, on lit deux livres. On lit deux livres qui, un m'a marqué actuellement et l'autre, enfin m'a marqué, on va dire m'a particulièrement plu actuellement et l'autre m'a beaucoup plu, mais de manière plus jeune. Mais juste avant de commencer, encore une fois, je vois le temps. Et du coup, je tiens juste à rappeler que vous êtes sur Radio G 101.5 FM. C'est une radio en DAB+. Vous écoutez Pop Flash. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lit ? On va lire déjà dans un premier temps Minkalesque, le dernier bouquet blanc qui a été écrit par Justin Deal. C'est sorti l'année dernière. C'est un roman qui est sorti à la Black Library. Et qui dit Black Library dit roman Warhammer 40K. Alors qu'est-ce que c'est Minkalesque, le dernier bouclier blanc ? Minkalesque, le dernier bouclier blanc, c'est un roman qui va nous amener à suivre plusieurs héros, dont Minkalesque, qui vont se battre du coup dans une des batailles les plus connues, je pense, de Warhammer 40 000 aujourd'hui, qui est la bataille qui a mené à la chute de Cadia. Avant de parler de ce roman, je pense qu'il est peut-être important de présenter un peu l'univers de Warhammer 40 000. Warhammer 40 000, c'est un univers futuriste et dystopique dans lequel il n'y a que la guerre, c'est-à-dire qu'il y a l'humanité, mais il y a aussi plein d'autres races aliens, et en fait, ils passent leur temps à se taper dessus, mais il y a aussi des démons, et aussi, ils se tapent dessus. On va suivre du coup dans Warhammer 40 000, on suit plusieurs factions, donc les humains, dans lesquels il y a plusieurs sous-factions qui sont alliés évidemment. Je sais pas si on peut appeler ça sous-faction, mais il y a plusieurs groupes. Il y a les Astartes qui sont les Space Marines, vous savez, ces grands bonhommes en armure qui sont de plusieurs couleurs. Il y a l'Inquisition qui sont l'Inquisition, et il y a du coup le groupe qui nous intéresse, qui est l'Astra Militarum, qui est du coup les monsieur et madame tout le monde qui sont engagés dans l'armée pour aller se battre contre des horreurs intergalactiques. Et c'est eux qu'on va suivre, et on va suivre plus précisément des Cadiens. Cadiens qui sont du coup des habitants d'une planète, qui est une planète forteresse. Bref, je vais pas rentrer dans tous les détails parce que sinon je pourrais faire limite une heure juste sur Warhammer. Mais du coup, il faut juste savoir que les Cadiens sont réputés comme étant... les Cadiens sont réputés comme étant les meilleurs guerriers de l'Astra Militarum, mais surtout que Cadia était réputée comme étant une forteresse imprenable. Et du coup, dans ce roman, on va suivre du coup le début de la 13e croisade noire. Je développe pas parce que sinon ce sera trop long. Et on va suivre du coup plusieurs héros, dont Isaiah Benkit et Minka, qui sont personnellement les deux héros qui m'ont le plus marqué, à travers cette guerre dont les personnes qui connaissent l'univers savent comment ça va se terminer, et ceux qui ne connaissent pas l'univers, je ne spoile pas, mais voilà. Ce roman, eh bien, il faut savoir que c'est le premier roman de Warhammer que je lis. Je connaissais Warhammer parce que j'aime les petites figurines en plastique et que j'aime bien regarder les vidéos sur internet, mais que ça fait un bout de temps que je voulais lire ça et que je savais pas quoi lire, et qu'on m'a conseillé de commencer par de l'Astra Militarum. Et du coup, j'ai commencé par ça, et oh putain, qu'est-ce que j'ai bien fait. C'est une porte d'entrée parfaite pour l'univers de Warhammer 40 000. C'est une porte d'entrée qui est bien meilleure qu'une série dont on parlera juste après, et qui nous permet du coup de suivre des événements à taille humaine face à des choses qui ne sont pas humains et qui ont du coup certaines réactions qui sont purement humaines. On peut voir, et ça nous permet aussi de voir clairement que Warhammer n'est pas un univers qui est gentil, mignon ou quoi que ce soit. C'est un univers qui est sale, et on le voit à travers des personnages qui sont des personnages bien écrits et qui sont des personnages qui, encore une fois, sont humains et ont des réactions qui sont normales. Et c'est assez agréable de voir ça dans des romans, surtout dans un univers où le truc le plus connu, en fait, c'est des surhommes en armure. C'est difficile de parler du livre sans trop vous spoiler, mais tout ça pour vous dire qu'en fait, on va. Faut savoir que déjà, c'est un livre qui répertorie plusieurs petites nouvelles. Et chacune de ces nouvelles va, c'est des nouvelles, c'est des romans. Ils appellent ça des romans, mais en fait, ça, certains ont vraiment la taille de romans, d'autres ont vraiment la taille de nouvelles. On va dire que chacune des grosses parties de ce gros bébé fait entre 100 et 500 pages. Le bouquin en entier fait environ un peu plus de 1000 pages, si je me trompe de mémoire. Mais voilà, personnage attachant. Ambiance extrêmement bien décrite, une tension qui est soutenue mais qui n'est pas trop étouffante, et je pense aussi que c'est aussi dû à l'auteur de ce roman, qui est du coup en fait un auteur qui a énormément écrit pour l'Astra, mais aussi pour les Sœurs de Bataille, qui sont du coup ma deuxième faction préférée. Si un jour vous voulez que je fasse une petite chronique sur Warhammer, je peux, mais je vous parlais forcément de mes factions préférées, qui seront du coup Salamanders, Astra et mon petit péché mignon, qui sont les Sœurs de Bataille, qui sont juste trop stylées. Voilà, bref. Mais du coup, est-ce que Mel, toi, ça te tenterait de t'intéresser à ce genre d'univers, ou bien est-ce que même là, quand j'en parle, t'es vraiment en mode ouais, pas ouf.
Bah, c'est compliqué parce qu'en fait, 40K, j'ai essayé de m'y mettre, etc. Surtout au niveau du lore, parce que les figurines, c'est pas mon style. J'ai du mal. Après, pourquoi pas sous le format lecture, effectivement, ça peut être intéressant. Après, je pense honnêtement que je vais être beaucoup plus intéressée par tout ce qui est Age of Sigmar que 40K. Oui. Parce que c'est plus mon délire, les elfes, la magie, etc. Plutôt que les gros boum boum avec les armures. Oui, c'est comme ça que je réduis 40K.
Oh
non, je rigole, je sais que c'est quand même plus profond. Mais effectivement, j'ai du mal avec cet univers-là. Moi, je suis plus dans les univers fantasy. Et Dark Fantasy que ce genre-là. Ouais. Donc, je sais pas, mais pourquoi pas à lire, surtout que si le personnage principal est une femme, j'aime bien ça. Elle a l'air intéressante de ce que j'ai compris.
Ah, mais Minkalesque, voilà, énorme crush fictif, énorme crush fictif. Mais du coup, aussi, petite chose, parce que j'ai oublié de le dire, vous pouvez le retrouver à la Fnac. Normalement, vous pouvez encore le retrouver à la Fnac, si je me trompe pas. Mais vous pouvez aussi le retrouver dans la boutique Warhammer. Alors, zéro partenariat. Mais moi, je vous conseillerais d'aller plutôt le chercher là-bas, parce que le vendeur, il est adorable. Et qui s'y connaît, et qui saura, en fait, vous diriger si vous êtes débutant, ou même si vous n'êtes pas débutant. Gros, gros big up à ce vendeur. Et encore une fois, je le répète, aucun partenariat, mais juste, il est adorable. Donc, il faut le dire. Et puis, c'est de la région. Donc, il faut soutenir les boutiques. C'est tout pour Warhammer. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter?
Non, à part que effectivement, gros big up aux vendeurs de Warhammer, et c'est vraiment pas un partenariat, on vous le jure, qui m'a conseillé en fait, et qui m'a beaucoup aidé pour le choix des livres, parce que c'est moi qui t'ai offert les livres.
Oui.
Et qui m'a énormément conseillé. Il a pris au moins 30 bonnes minutes pour me parler du lore, pour me parler de ce qui est mieux entre Age of Sigmar ou 40K et tout ça. Donc vraiment gros big up.
Et je vois le temps, du coup il faut qu'on enchaîne. Oui, encore une fois gros big up. Et du coup deuxième partie de qu'est-ce qu'on lit, on va parler de Solitaire. Solitaire, c'est quoi? Solitaire, c'est un manga qui a été écrit et illustré par Atsushi Okubo, qui a été publié entre 2004 et 2013 dans le magazine Shonen Jump. Je vous ai déjà parlé de cet auteur, souvenez-vous, pour Fire Force. Et aujourd'hui, je vais vous parler de son premier manga. Ça a été adapté par les studios Bones en 2008, mais franchement, je ne vous conseille pas l'animé. Lisez le manga. On va tout simplement suivre plusieurs personnages à la Death Weapon My Star Academy. Nicole dirigée par Shinigami, le dieu de la mort, et les élèves qui sont divisés en deux catégories. Les maîtres d'armes et leurs partenaires. Leurs partenaires sont des humains qui peuvent se transformer en fait en armes. Leur objectif, c'est évidemment de collecter 99 âmes humaines corrompues et une âme de sorcière afin de se transformer en Death Sight. Death Sight, c'est quoi? C'est les armes justement du dieu de la mort. On va suivre du coup Maki, qui est une maîtresse d'armes, Soul, qui est du coup son partenaire. On va aussi suivre Blackstar, un ninja qui est assez bruyant et concentrique, Tsubaki, qui est l'arme du coup de Blackstar, et enfin Death the Kid, qui est du coup un perfectionniste obsédé par la symétrie, mais aussi ses armes qui sont liées et pâties. Il faut savoir que les plus gros personnages principaux, ça reste Maka et Soul. Et du coup, voilà, déjà ça c'est ça pour l'histoire. Ça va y avoir vraiment un certain mélange entre du gothique et de l'horreur et de la comédie, ce qui est assez agréable à lire. Et enfin, on va vraiment explorer la notion d'âme et de folie. C'est un univers qui est assez unique et qui personnellement m'a vraiment beaucoup beaucoup marqué quand j'étais gosse. Et outre l'histoire qui est intéressante, les dessins qui sont beaux et les thématiques que je pense être intéressantes et pas assez marquées. Je pense que le fait même que un des deux personnages principaux soit une femme, ce qui à l'époque était assez rare, surtout dans les shonen, bah en fait ça vaut le coup de le lire parce que tous les personnages sont bien développés, outre en fait le fait que ce soit une femme et que tout ça, tous les personnages principaux sont extrêmement bien développés, ils ont leur propre quête, ils ont leur propre objectif, ils ont leur fin. Et ça c'est bien. Et c'est un des seuls mangas qui a réussi à se terminer en faisant vraiment l'unanimité pour tout le monde en fait. Du coup je vous dirais tout simplement de foncer lire parce que c'est bien. Ne regardez pas l'animé encore une fois en fait. Ils ont fini l'animé avant que le manga se finisse. Du coup en fait c'est de la merde. Enfin je n'aime pas. Si vous avez aimé ça en étant gosse, je comprends. Re-regardez ça après avoir lu le manga. Peut-être que vous aimerez moi. Peut-être que vous aimerez toujours. Après, voilà, je respecte les palettes d'Oberman. C'est pas grave. Je rigole évidemment. Il faut pas le prendre mal. Mais voilà, évidemment, ce genre de pilier, parce que je pense que Soul est vraiment un pilier dans le monde du manga, ça a eu un certain héritage, notamment, on va dire par ses spin-offs, comme Soul Note, qui est en préquel de Soul Eater, mais un ton un peu plus léger. Mais il y a aussi le nouveau pilier qu'est Fire Force, qui est juste absolute masterclass. J'aime pas dire ça, mais parfois il faut le dire. Mais voilà, c'est une des séries qui a été les plus reconnues pour les années 2000. Moi, je vous dirais d'aller le voir, mais voilà. Qu'est-ce qu'on lit? C'est fini. Est-ce que les deux livres que je vous ai présentés et les deux séries que je vous ai présentées, ça vous donne envie? Je pose pas la question pour Soulita Ramel parce que je sais qu'elle aime bien. On a les intégrales à la maison et c'est quelque chose que je relis souvent. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on lit? C'est fini. N'hésitez pas à me dire dans le chat ou en commentaire ce que vous avez pensé, en fait, de cette chronique. On va tout de suite, faire la deuxième pause musicale. Qui sera du coup tac le nom, je vais vous le retrouver dans deux petites secondes. Le nom c'est Bite Marks, qui est du coup une autre chanson de League of Legends. Comme quoi, est-ce qu'on serait pas fan de Riot? Peut-être, on est fan en tout cas de leur musique, de leur truc, mais peut-être pas des jeux. On se retrouve juste après. Je rappelle juste que vous êtes sur Radio G 101.5 FM. Il est 19h40. Voilà, à tout à l'heure. On est de retour, 19h45 si je ne me trompe pas, et on va tout de suite se retrouver pour Pop and Clap, et on va vous parler de deux séries qui nous ont plu ou qui nous ont un peu moins plu, mais en tout cas on lance le générique et on se retrouve juste après, à tout à l'heure. Action, émotion et un peu de pop-corn, bienvenue dans Pop and Clap. Et du coup, on va tout de suite commencer. Mel, vas-y, je crois que c'est toi qui commences.
Oui.
Vas-y.
Le 26 décembre sortait la saison 2 de Squid Game, une série coréenne racontant l'histoire de Ji-hoon, un homme endetté qui se retrouve à jouer sa propre vie et celle de 455 autres personnes, elles aussi endettées, dans des jeux mortels. Le gagnant recevra de l'argent pour chaque participant mort lors des jeux. Je m'arrête là pour le résumé car aujourd'hui on va parler de la saison 2. Alors, alerte spoiler pour ceux et celles qui n'ont pas vu la série ou la saison 2. La saison 2 démarre avec Ji-hoon, 3 ans après les événements de la saison 1. Toujours traumatisé, Ji-hoon essaie de façon désespérée de retrouver le recruteur afin de remonter jusqu'au maître du jeu pour détruire les Squid Game. Ses recherches ne donnent rien jusqu'à ce qu'un jour, par hasard, ça fonctionne. Il retrouve le recruteur après plusieurs péripéties que je ne veux pas vous spoiler. Ji-hoon se retrouve finalement à participer au jeu à nouveau. Va-t-il réussir son objectif de détruire les jeux? Va-t-il devoir sacrifier à nouveau toutes les personnes qu'il aime? Je m'arrête là pour le résumé. Vous avez vu, j'ai pas trop spoilé. Donc si l'histoire vous intéresse, bouchez-vous les oreilles pour la suite de cette chronique. Car là, ça va spoiler et théoriser pour la suite. Qu'est-ce qu'on en a pensé de la saison 2 avec JR? Personnellement, j'ai adoré cette saison 2. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que c'est répétitif simplement parce qu'il y a un seul jeu pareil à la première saison. Oui, il n'y a pas la nouveauté 2, mais qu'est-ce que c'est les Squid Game? Mais par contre, la série a réussi avec brio à renouveler les jeux. Les personnages sont également très intéressants, surtout les personnages qu'on suit le plus. Les relations sont bien amenées et le mystère autour de la recherche de l'île également. Cependant, cela se voit que cette saison 2 est une introduction pour la saison 3 qui, si je ne me trompe pas, sera la dernière saison. En tout cas, pour la version coréenne, parce que oui, apparemment, il y aura des versions de Squid Game dans plusieurs pays différents. JR, ton avis sur la saison 2 ?
Alors, je suis pas aussi enthousiaste que toi. Mais j'ai bien aimé. En fait, j'ai fait une critique sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre. @bac.tige, bref. J'ai bien aimé. Je trouve qu'ils ont réussi à se renouveler. Par contre, je trouve que cette saison est un peu, comment dire, frustrante parce qu'on sent que c'est vraiment genre en mode une saison de transition et que du coup, en fait, ils auraient pu faire une grosse saison. Ils ont préféré en faire deux petites parce que l'argent.
Oui.
Et du coup, c'est un peu, voilà.
Oui, l'argent ou pour d'autres raisons qu'on ignore, mais effectivement, ça se voit que la saison 2, elle est un peu en mode introduction et en même temps suite, donc ça part dans certains sens, ça ouvre des portes, ça enferme d'autres. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé, je comprends pas trop les critiques autour de cette suite. Quand les gens disent « oui, mais il n'y a rien de nouveau », oui, mais c'est toutes les saisons, en fait, toutes les suites de saisons n'ont rien de nouveau. C'est logique,
c'est
en fait.
La base.
C'est la base, surtout pour une histoire qui se suit. J'ai beaucoup aimé aussi les personnages, notamment le groupe principal, Eunjun.
En fait, vraiment, je pense que tous les acteurs étaient très très bons. Eunjun, ouais, c'était un très très bon. On spoile pas, donc mais dans l'ensemble, moi je pense que ce qu'on pourrait dire, et après dis-moi si on peut passer à la suite,
oui,
c'est que allez la voir parce que je pense qu'elle vaut clairement le coup. J'espère par contre que vraiment la saison 3 ce sera fini pour la Corée. J'ai très peur de ce qu'ils vont faire avec la suite. Mais on verra ça. On va pas faire les Nostradamus. Allez la voir. Ouais. Dites-nous ce que vous en pensez. Et vous, si vous l'avez déjà vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à nous le dire dans le chat.
Oui. Et ben c'est tout pour la chronique sur Squid Game. Regardez-la si vous en avez envie. Attention cependant à ne pas regarder si vous êtes très sensible, car c'est gore, il y a du sang, il y a des choses qui se passent. Donc
public averti, quoi.
Ouais, c'est vraiment public averti plus pour les personnes sensibles, etc. Évitez.
Et pour la suite de Pop & Cap, on va parler d'une autre série qui est sortie en décembre, une série que personnellement j'attendais beaucoup, qui est la série Secret Level. La série Secret Level, c'est une série qui est sur Amazon Prime, qui a du coup, si je ne me trompe pas, 15 ou 17 épisodes, je crois que c'est 15 épisodes, les épisodes font entre 6 et 8 minutes. C'est une série d'anthologie, c'est-à-dire que chaque épisode en fait est propre et raconte une petite histoire. Et en fait, la petite particularité de cette série, c'est que en fait, ça va parler à chaque fois dans jeux vidéo différents. Ça va parler de Donjons et Dragons, ça va parler de Unreal Tournament, ça va parler de Warhammer 40 000, ça va parler de Sifu, ça va parler de plein de trucs. On va commencer tout de suite par parler des points positifs que j'ai trouvé sur la série. Puis après, on parlera des points négatifs. Les points positifs, c'est déjà une animation qui est vraiment genre aux petits oignons. Elle est magnifique, genre vraiment, c'est du caviar pour les yeux. L'autre gros point positif, c'est les acteurs de doublage. Les acteurs de doublage en VO, il y a notamment Arnold Schwarzenegger qui nous arrive, juste pour dire ces deux noms-là. Donc c'est pas de la merde, c'est vraiment, et d'ailleurs pour l'avoir vu, les doublages sont encore une fois du caviar pour les oreilles. Hein. Personnellement, il y a trois épisodes qui m'ont particulièrement marqué. Et il y aura l'épisode sur Sifu qui respecte vraiment l'esthétique du jeu je pense que pour moi c'est le meilleur épisode, mais ça c'est autre chose, parce que animation parfaite, parce que chorégraphie super belle, parce que tout le passage dans le monde des morts, il est juste en mode oh là là, c'est beau, et tout le message qu'il y a aussi est bien, en fait il respecte le jeu. Et j'ai marqué explore la notion du temps, et c'est vrai, c'est une immersion totale dans le jeu et qui m'a fait en fait me dire je veux jouer au jeu. Et l'autre épisode qui m'a vraiment plu, c'est l'épisode par rapport à Donjons et Dragons. Oh, Relis qui a aimé l'épisode sur Donjons et Dragons, comme c'est étonnant. Bah oui, parce que en fait ça retranscrit parfaitement l'ambiance qu'il y a dans une compagnie d'aventuriers. Et comment est-ce que, par exemple, admettons qu'un joueur perde en personnage, comment est-ce que tu peux réintégrer un nouveau personnage dans la campagne? Voilà, ça m'a plu. J'allais dire en point négatif, mais ça je le dirai dans tous les points négatifs. Et le dernier épisode qui m'a énormément plu, c'est Unlimited Tournament, si je me trompe pas, celui où on voit le tournoi entre humains et robots, qui est très très bon, avec encore une fois une chorégraphie, une animation parfaite, et un message qui est très défaitiste, mais qui est dans notre côté très bien, je trouve. Enfin, on va parler du coup des points négatifs. Un des gros points négatifs, je trouve personnellement, que c'est la durée des épisodes. Genre 6 à 8 minutes, c'est pas assez. En fait, on n'a pas le temps de vraiment rentrer dans un épisode qui est déjà terminé. Et du coup, en fait, c'est dommage parce qu'on a genre un avant-goût de il est bon ce jeu vidéo. Va jouer au jeu. Oui, mais si je regarde la série, c'est pas spécialement parce que j'ai envie de jouer au jeu. Donnez-moi plus de Sifu, donnez-moi plus de trucs, et après on en parle plus. Après, je pense aussi que c'était peut-être aussi une enthèse pour voir quel épisode allait particulièrement plaire, lesquels allaient pas plaire, pour faire peut-être après des séries. Donc Amazon, j'ai des doutes sur le fait que quelqu'un d'Amazon écoute cette émission. Mais si vous écoutez, donnez-nous des séries sur tous les jeux. bien parce que tous les jeux sont bons. Il y a notamment, par contre, un épisode qui m'a déçu. Je m'y attendais pas, parce que je suis fan de l'univers. C'est l'épisode sur Warhammer 40 000. En fait, l'épisode, il est pas mauvais. Moi, évidemment, je l'ai vu, j'étais en mode oh là là, c'est trop bien. J'ai joué à Warhammer Space Marine 1 et 2. Du coup, j'étais en mode Titus. J'étais content. Mais Mel, qui était à côté de moi, bah en fait, elle comprenait pas pour une raison très simple. C'est que contrairement aux autres épisodes, j'ai un peu l'impression que ils ont pas voulu faire que ce soit nous friendly entre guillemets. Dans le sens où en fait ils nous ont plongé dans l'univers, aucune explication, rien du tout. Juste on voit en combat qui est très stylé encore une fois, hein. Et on voit ça. Et mais du coup en fait genre quand j'en ai parlé avec Mel, elle m'a dit c'est bien, mais en fait genre c'était un bon combat, c'est un bon combat, mais par contre niveau histoire, j'ai rien de plus quoi. Donc c'est peut-être, je trouve, Mel veut dire quelque chose, donc vas-y.
Oui, désolée. C'est pas que j'ai pas aimé l'épisode de 40K. Je l'ai pas aimé non plus. Je sais pas comment expliquer. C'était sympa à regarder dans le sens où c'est magnifique. Secret Level, chaque épisode sont magnifiques. Mais c'est tout. Genre, je comprenais rien. Toi, t'étais à fond, genre en mode Titus et tout. J'étais là, c'est qui? Il est où? C'est des armures, je comprends rien. Qui est qui? Enfin, vraiment, j'étais perdue. Et je pense qu'en fait, peut-être que c'est un des défauts de la série, du coup. Enfin, c'est pas vraiment un défaut, mais c'est pour les personnes qui connaissent pas un jeu. Si c'est un jeu avec énormément de lore, et que il y a beaucoup de contenu pour en faire une introduction, je pense que il faut vraiment savoir quoi prendre comme truc. Oui. Et là, ils ont pas su, je pense.
Ils n'ont pas réussi à faire
une introduction à 40K, et ils ont dû se dire bah voilà, ceux qui vont regarder, ce sont des gamers, des geeks, ils vont connaître, et du coup ils ont balancé ça. Il y a un peu ce même genre-là pour Donjons et Dragons, le premier épisode au final.
Mais Donjons et Dragons est beaucoup plus connu que Warhammer. Du coup, en fait, ça fait ça. Du coup, il y a moins de soucis là. Désolé, oui. Je vois le temps et du coup, j'enchaîne et après on pourra en discuter juste quand j'ai fini ça. Avec chronique promis. Mais, je dirais que l'autre chronique, et là, du coup, tu pourras en parler aussi, que j'ai bizarrement aimé, c'est Pac-Man.
Oui. J'allais te le dire, c'est un de mes épisodes préférés, c'est celui sur Pac-Man. Au début, j'étais là, mais comment ils vont adapter Pac-Man, genre ?
Ils l'ont trop bien fait.
Mais en fait, c'était du génie et je veux. Et c'est ça mon problème avec cette série, c'est que j'en veux plus. Je veux une série animée sur Pac-Man. Je veux un jeu vidéo Pac-Man comme ça.
Oui. Et
c'est trop stylé.
Et on dit ça, sachez qu'on n'a pas encore fini la série. On a l'épisode 11 ou 12.
Ouais.
Et qu'à ce qui paraît, on n'a pas encore vu le meilleur épisode qui est Armored Core.
Oui, pareil. Et effectivement aussi, l'épisode avec les robots, c'est un de mes préférés aussi.
Oui, bah celui, Unlimited Tournament, ou je sais plus. J'ai oublié le nom du jeu.
Dernier, moi, que j'ai adoré, je pense que toi aussi, tu l'avais bien aimé. Il est tout simple, mais c'est celui avec le roi. Je crois que c'est New World.
Oh, celui sur New World. Je l'avais oublié. Mais oui, c'est un des meilleurs épisodes. Parce que, encore une fois, en 8 minutes, l'histoire, en fait, on n'a pas besoin de savoir le lore de l'univers pour comprendre l'histoire. Il y a un point A, il y a un point B. Et en fait, on suit du point A au point B et il n'y a pas besoin de plus. Et en fait, je pense que c'est surtout quelque chose que pour certains épisodes, ils n'ont pas réussi à faire. C'est faire en sorte que ce soit juste en stand-alone de 8 minutes qui raconte une histoire. L'épisode sur Donjons et Dragons, c'est vrai qu'il ne présente pas l'univers. Mais au final, désolé, là, ce sera un spoil juste du premier épisode. C'est juste, on trouve quelqu'un qu'on doit ramener quelque part. Cette personne a une merde. Bah écoute, il y a ça qui se passe. On le sauve de ça. Ça crée un nouveau problème. Début du combat. Tous les auditeurs sont frustrés. C'est tout ça. Mais vas-y.
Oui, effectivement, le premier épisode, celui de Donjons et Dragons, moi, il m'a frustrée. Et c'est mon problème avec les séries d'anthologie. J'ai beaucoup de mal avec ça parce que moi, dès que je trouve un truc qui me plaît, je suis en mode. Je veux plus, more.
Mais c'est quelque chose que ça. Et du coup, je pense que pour Secret Level, dans l'ensemble, c'est une bonne série. Je dirais pas que c'est une mauvaise série. Je mettrais en solide 8 sur 10.
C'est exactement ce que j'allais dire.
J'ai en solide 8 sur 10, tandis que, par exemple, Squid Game, je lui ai mis 7,5.
Ouais, moi j'aurais mis 9.
Oui, voilà. Mais ça, c'est, voilà, ça, c'est encore une fois les goûts et les couleurs. Mais du coup, j'aurais mis en solide 8 sur 10. Mais par contre, il faut le dire, c'est que c'est une série qui a des épisodes inégaux. Forcément, parce que les épisodes ne se suivent pas et c'est pas grave, c'est comme ça. Par contre, c'est une série qui, selon moi, est très intéressante et nous permet d'avoir en avant-goût des possibles séries sur certains jeux vidéo qu'on pourrait avoir. Et c'est aussi en autre chose, c'est que c'est pour moi aussi un premier message aux grosses entreprises qui pour dire, c'est de plus en plus le cas, pour dire on n'est pas obligé de faire des films ou des séries basées sur les jeux vidéo où c'est je tape et toi tu tapes et moi je tape et moi je tape, comme ils ont fait par exemple pour Resident Evil, qui encore une fois les films Resident Evil c'est une purge. Donc je pense que c'est une bonne chose. Je sais que t'aimes bien les films Resident Evil.
Ça fait très longtemps que je les ai pas vus, mais à l'époque quand j'étais jeune j'aimais bien.
Oui, mais voilà, du coup dans l'ensemble je pense qu'on a fait le tour. Moi la vraie question que j'ai à vous poser du coup aujourd'hui au chat, c'est: est-ce que vous avez vu Secret Level? Si oui, quel épisode a été votre préféré? Et surtout, un épisode a été vos préférés, quel épisode vous voudriez en voir une série? Moi, personnellement, j'ai très hâte de voir une série sur Warhammer. J'aimerais bien voir une série sur Sifu. J'aimerais bien voir une série, pas spécialement la série sur Pac-Man, parce que je pense que la série sur Pac-Man suffit à elle-même. Sinon, je pense que quand je vais voir Armored Core, je voudrais voir une série dessus. Par contre, encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on va couvrir quand ça sortira. Ça sortira probablement en 2026. C'est la série Warhammer 40 000. J'espère qu'ils vont pas se rater, parce que voilà. Dernière chose aussi, et ça c'est plus une question pour vous en fait qui sont là et qui sont peut-être intéressés par Warhammer 40 000, il y a quelque chose qui s'appelle Warhammer TV. Est-ce que ça vaudrait le coup que je regarde des séries qu'il y a sur Warhammer TV pour vous donner votre avis? Dites-le moi en commentaire dans le chat et on étudiera ça avec Mel. Enfin, je vais finir avec Mel. Toi Mel, quelle série t'as envie de voir?
Alors, moi je veux une série d'animation avec cette animation-là de Donjons et Dragons. Je le veux. Et de Pac-Man, vraiment. Et New World aussi, j'ai vraiment aimé. Sifu aussi, c'était très intéressant, même si je ne suis pas fan du jeu. La série était super. Enfin, l'épisode sur Sifu était très intéressant. Mais je pense que moi, je veux du Donjons et Dragons et du Pac-Man, parce que c'était vraiment trop stylé.
Et je comprends tout à fait. En tout cas, l'intro. Pop Flash, c'est fini. Il est 20h, on vous laisse avec la prochaine émission. Passez une très très bonne fin de soirée et une très très bonne fin de semaine. Nous, on se retrouve dans 2 semaines.
Radio G. 101.5 FM. Radio-G.fr.